Et si on mettait le nez dehors pour sortir la rosée sur le gazon, les oiseaux qui se réveillent dans les arbres? Bonjour Alain Baraton.
J'aime votre poésie matinale. Bonjour Amélie, bonjour
c'est
à tous.
C'est vous qui me l'inspirez Alain. C'est la main verte de France Inter. Alain, vous répondez à toutes nos questions. D'abord celle de Sylvie, quel joli prénom. Je n'arrive pas à me débarrasser des cochenilles blanches qui ont envahi mes plantes. Auriez-vous des solutions?
Des cochenilles blanches qu'on appelle aussi les cochenilles farineuses. On les distingue très aisément comme cette farine qu'elles produisent. La cochenille est un insecte redoutable qui est protégée par une carapace et qui vit plaquée sur la feuille. Pour faire simple, la plante se nourrit de la sève et se déplace protégée par ce bouclier très difficile de s'en séparer. L'occasion peut-être de rappeler que les plantes sont comme nous autres humains, rien ne remplace la prévention. Quand une cochenille attaque un végétal fatigué, mal exposé, qui vit en concurrence avec d'autres plantes, eh bien la plante n'a pas suffisamment d'énergie pour s'en débarrasser naturellement. Quand au contraire elle est saine, qu'elle est en pleine forme, eh bien la cochenille n'aura que très peu d'impact sur sa croissance et finalement la cochenille préférera aller voir d'autres plantes plus délectables à envahir. Alors il n'y a pas grand chose à faire, simplement se souvenir que les oiseaux sont les premiers prédateurs, dégustateurs je dirais même, des cochenilles, que pour les plantes d'appartement il est possible de faire quelques petits mélanges que l'on ne peut pas faire à l'extérieur, qu'il reste toujours la technique du bâtonnet, je sais
c'est épouvantable, la technique du bâtonnet.
C'est tout simplement avec le bâtonnet faire tomber les cochenilles à terre en espérant que là encore des oiseaux viennent les picorer, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais se souvenir que lorsqu'une plante est installée dans un sol qui lui convient, dans un environnement climatologique qui lui convient, quand elle ne manque pas trop d'eau et qu'elle n'en a pas trop non plus, eh bien, généralement, ces insectes préfèrent déserter les lieux.
La question de Sylvain maintenant. Quelles sont les propriétés des plantes appelées vaccinium? On va commencer par... C'est une question en deux parties. Alors,
cette question pourrait être vicieuse, mais elle ne l'est pas, bien évidemment. Mais quand on pense à une plante vaccinium, immédiatement, on pense vaccin. Et peut-être vous-même, Amélie, vous dites peut-être que cette plante, elle a des vertus médicinales.
Mais pourquoi pas?
Absolument pas.
Ah.
Rien à voir. Vaccinium a pour racine vaccine. Et vaccine, c'était le nom, autrefois, de la variole de la vache.
Eh
oui, le bovin avait une maladie, la variole de la vache. Et la vaccine, eh bien, pour soigner l'animal, on l'a vacciné. Ça vient de là, le mot vaccin.
Ça vient de là, d'accord.
Et pour la plante, eh bien, ça vient de là aussi. Donc, les myrtilles, qui sont de la famille des vaccinium, ont pour origine le nom de la vache, car ce sont des plantes qui poussent dans les alpages, dans les basses montagnes, là où les vaches se délectaient de les déguster.
Alors justement, c'est la deuxième partie de la question de Sylvain. À quel moment et où, en dehors des zones montagneuses, on peut admirer des myrtilles?
En été et dans les zones montagneuses, et oui, ou dans votre jardin, si vous en avez planté, bien évidemment.
Steven, il a emménagé en septembre et dans son jardin, il y a un troène non taillé en haie qui lui semble malade. Le bout des tiges, fleurs et feuilles, noircies et sèches. Un forsythia pousse à côté et lui aussi semble touché. Il y avait aussi un laurier palme qu'il a coupé car il était trop encombrant. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il se passe. Déjà, vous n'avez pas idée du nombre de mails que je reçois où l'on déplore l'extrémité des branches, des arbustes qui sont devenus noirs et sèches.
Ouais.
Quantité de ceux qui nous écoutent ont la chance d'avoir une maison à la campagne ou à la mer, arrivent et ne constatent ce phénomène. Eh bien, revenons quelques mois plus tôt. Souvenez-vous, Amélie, nous sommes au printemps. Mmh. Il a fait merveilleusement doux, beau. Et le gel est revenu. Un gel redoutable qui a tout simplement brûlé les jeunes pousses bien tendres. Et ces extrémités noires sont les conséquences tout simplement du gel printanier tardif. Alors, que faire? Pas grand-chose. Vous coupez tout simplement l'extrémité noircie qui ne poussera plus. Et la plante retrouvera une apparence vraiment normale.
La question de Brigitte maintenant. J'ai un grand jardin planté de rosiers et de plantes diverses, mais il est visité par des chevreuils très gourmands des fleurs. Ah bon, ça mange des fleurs, les chevreuils? Elles ne survivent pas à leur festin. Quelle solution suggérez-vous à Brigitte?
Eh bien oui, le chevreuil se délecte des roses, et principalement des boutons de roses.
Vous n'avez pas toxique.
Ah mais c'est d'un autre côté, quand vous ouvrez les volets, imaginez, ce matin, vous ouvrez les volets, et devant vous, les quatre pattes dans votre massif de rosiers, un chevreuil. C'est aussi joli que le massif de rosiers.
Absolument.
Alors que faire? Hors de question, bien sûr, d'éloigner méchamment les animaux. Mmh. Il y a une petite technique toute bête et toute simple qui consiste à disposer dans la propriété des morceaux de verre cassé, de miroir pour être plus exact.
Ah.
L'animal arrive, il voit son reflet ou du moins une partie de son reflet, il ne se pose pas de questions et il préfère s'enfuir. Alors, il y a une autre technique que j'évoquais autrefois qui consistait à suspendre dans les branches d'arbres des bas de femmes usagées. Je dis bien usagées. Alors,
ça m'étonne pas trop de vous, alors oui, je sais pas pourquoi.
Oui, alors, ouais. Je vous explique, il paraît que c'est très efficace. Peut-être, ça vous donne quand même une réputation douteuse.
Un peu.
Donc, à déconseiller quand même, c'est même à ce que les gendarmes viennent chez vous.
Voilà. Ce message de Lorraine.
Faut être prudent.
On va passer au message de Lorraine.
Donc, privilégions le miroir.
Peut-être le miroir, oui, le miroir. Plutôt. Lorraine, maintenant, elle nous écrit. J'ai acheté un rosier Zéphirine Drouin. Je l'ai planté dans un grand pot contre ma façade. Je me suis aperçue, après son achat, qu'il y avait des taches couleur rouille sur certaines feuilles. De quoi s'agit-il?
C'est la chanson, vous vous rappelez, de Maxime Le Forestier.
Une de mes préférées, La Rouille.
Contre la rouille, il n'y a rien à faire. Contre la rouille. Bon. Ouais, eh bien, la maladie de la rouille est une maladie cryptogamique. La maladie, donc, c'est une maladie de champignons qui est favorisée par l'humidité et la chaleur. Là encore, on y arrive encore. Si le rosier était planté dans un sol qui convient, s'ils étaient à distance de plantation suffisante, si on avait pris soin de couper le centre du végétal pour l'aération de la plante et que le soleil caresse l'intégralité de la ramure, il y aurait beaucoup moins de problèmes de rouille. Donc pas grand chose à faire, on va vous parler de pulvérisation, de purin de prêle, d'ortie, etc. Pourquoi pas? Par contre, ce qu'il faut faire, c'est supprimer à la main les feuilles endommagées et évacuer, ne pas laisser sur le terrain les feuilles qui sont contaminées. Mais se souvenir que quand on plante, là encore, des rosiers dans une terre nickel, sous un soleil nickel, à de bonnes distances de plantation, il est bien rare qu'il y ait la maladie.
Une dernière question de Sylvie. On m'a offert un anthurium et, que j'ai rempoté, mais ses feuilles deviennent jaunes, les nouvelles poussent également. Je ne l'arrose pas très souvent. Merci pour vos conseils, vous dit Sylvie.
L'anthurium ne demande pas beaucoup d'arrosage, sauf quand il vient d'être rempoté. Ah. Quand une plante a été rempotée, il faut l'arroser abondamment pour que les racines soient en contact direct avec la terre et ne sèchent pas. Donc on arrose immédiatement l'anthurium, on ne tarde pas et on coupe les feuilles jaunes. Elles ne reverdiront pas.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses à nos auditeurs. On a un petit peu de temps, Alain, pour parler d'un conseil lecture, le livre du samedi.
Oui, un livre intelligent. « Adapter son jardin au changement climatique » de Jérôme Julien. Qui sait de quoi il parle. Il a fait « L'état des lieux et les solutions ». Et c'est un ouvrage pratique, technique, vraiment bien rédigé, qui donne de précieux conseils. Donc, « Adapter son jardin au changement climatique », en fait, c'est le manuel parfait pour le jardin de demain. Et c'est publié aux éditions Erol.
Merci Alain Baraton pour ce très bon conseil. On vous retrouve demain avec de nouvelles questions d'auditeurs.
Avec joie.
À demain, Alain.